Les nuits de France Culture.
Représentant, sans aucun doute le plus célèbre de la psychothérapie institutionnelle, Jean Houry n'avait pas 30 ans quand, en 1953, il fonda dans le Loir-et-Cher la clinique de la Borde qu'il dirigea jusqu'à sa mort en 2014. En 1990, interrogé par Cécile Amcy dans une série de 5 entretiens à voix nue, Jean Houry refaisait le chemin qui l'aura conduit à consacrer toute son existence à l'accueil et aux soins des malades mentaux ou des fous, comme il plaira à chacun de dire. Dans le premier épisode que nous allons entendre, il évoquait notamment l'importance qu'avait eue pour lui sa rencontre avec le neurologue Julian de Ajuria-Guerra et sa rencontre avec Jacques Lacan. Et il s'arrêtait à une étape essentielle de son histoire, à Saint-Alban-sur-Limagnole, en Lozère, point de départ de la psychothérapie institutionnelle dans notre pays, où, en 1947, aux côtés de François Tosquelles, Jean Houry se trouva pour la première fois en contact avec des malades mentaux. À voix nue, Jean Houry, premier des 5 entretiens, diffusé le 24 septembre 1990 sur France Culture.
À voix nue. Entretien d'hier et d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, Jean Houry s'entretient avec Cécile Amcy. Premier entretien.
Là, je reprends des essais sur la psychothérapie institutionnelle. Vous avez intitulé ça « 11 heures du soir à la Borde ». Et
c'est le titre d'un des chapitres, d'un des articles.
Oui. Et il y a une phrase... moi, j'ai l'impression vraiment que ça vous caractérise. Voilà, vous dites... je me pose la question, c'est toujours la même. Je me suis toujours posé la même question. Et je crois que tout discours devrait poser cette question-là. Je ne me souviens même pas quand j'ai eu cette révélation pour la première fois. Je devais avoir 15 ou 16 ans et je faisais du vélo pour aller à l'école. En vélo, on fait des rêves éveillés, comme ça, en suivant l'autobus. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je m'en repose toujours cette question. Quand je vous parle là, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je peux aussi vous retourner la question, qu'est-ce que vous foutez là? Et ça, si vous voulez, bon, j'ai quand même lu pas mal de choses que vous avez écrites, ou surtout dites, parce que c'est plutôt des séminaires.
Ouais.
Bon, vous êtes plutôt quelqu'un d'oral. Et c'est vrai que vous avez des tas de références, un discours très, très distingué, très érudit. Mais en même temps, il y a toujours cette qualité d'émotion. C'est ça que j'ai ressenti, et cette, une espèce de qualité de présence que vous recherchez. Alors, on pourrait peut-être commencer par...
Ouais, ça me semble tout à fait judicieux de commencer par là. Hein. Parce que c'est vrai que c'est à la base de toute démarche. Enfin, bon, pas simplement dans le domaine de la psychiatrie, hein, où vraiment on est là un peu par hasard. Mais dans toute démarche un petit peu plus sérieuse, enfin, vis-à-vis de ce qu'on fait, de ce qui se passe. C'est une position que j'ai retrouvée, alors après, formulée d'une façon plus académique. La position de base de toute approche phénoménologique, disons, de l'existence ou du monde, c'est d'être dans l'étonnement. Ou alors, dans la poésie chinoise, le « ah ». Ah. Alors, à tel point que j'en arrive à dire si quelqu'un de, devant une situation quelconque n'arrive pas à, à faire ah, ben, il y est pas, quoi. Il reste enfermé dans lui-même. Alors on peut qualifier ça, c'est vrai que c'était, on peut dire révélation, c'est un grand mot, enfin c'est enfin, à l'adolescence, quoi, vers 15-16 ans, c'est vrai qu'il y avait cette sorte de surprise d'être là. Hein, c'est un petit peu schizoïde, on pourrait dire ça. Mais c'est une, ça se rapproche d'une sorte de, ce qu'on appelle en phénoménologie, de réduction phénoménologique, mais poussée à l'extrême. Dans un autre texte, d'ailleurs, je parle de réduction sur le plan phénoménologique, réduction schizoïde. Et j'ai même retrouvé chez un auteur allemand, plus tard, pour spécifier alors son travail en phénoménologie psychiatrique, le thème de réduction schizophrénique. Alors j'étais content parce que ça correspondait à peu près à ce que j'avais essayé d'expliquer. C'est-à-dire d'être à la limite presque de l'étrangeté. Alors, cette phrase-là, je la répète toujours, c'est vrai, c'est une phrase, un leitmotiv.
Il y a aussi le vélo.
Ah, le vélo.
Oui.
Ah, pas le vélo.
Vous aimez être à vélo, vous.
Oui, sauf que j'en fais plus depuis 107 ans. Hein. Mais c'est vrai que dans l'enfance, dans l'adolescence, on était en vélo. Il faut dire qu'à cette époque, il y avait... Et on fabriquait, on était bricoleurs. Avec mon frère, on fabriquait des vélos.
Vous fabriquiez des vélos.
Pièce par pièce. Alors c'était tout un artisanat. Pas des vélos pour nous, bien sûr. Hein. Mais alors on changeait les choses de place, comme ça, c'était un bricolage.
Alors, en 47, vous allez à Saint-Alban, et là vous rencontrez vos premiers fous. Alors qu'est-ce qui vous amène à Saint-Alban, l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban?
C'est, on peut dire, le prétexte, hein, ou l'occasion. Hein. C'est que je suivais à peu près, pas d'une façon très studieuse d'ailleurs, mais je suivais les cours d'internat à Paris, à Sainte-Anne, d'Algérie Aguera, qui est un neuropsychiatre, un neurologue surtout, on peut dire, d'une qualité comme on n'en a jamais vu. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Mais il était réfugié.
D'extraordinaire dans quel sens?
Au point de vue ampleur, disons, de connaissance, mais de sa personnalité même, et sa simplicité même, pour expliquer, disons, la neurologie, les cas cliniques qui se présentaient, etc. C'est un réfugié basque, espagnol. Et alors, c'est au mois de juillet, je me souviens, de cette année 47, qu'il a proposé aux gens qui composaient les séances d'internat, enfin de cours d'internat, qu'il a dit, tiens, j'ai un ami en Lozère, hein, François Tosqueyès, et qui travaille là-bas, et il demande s'il n'y aurait pas deux internes. Il a besoin de deux internes. Alors j'étais avec mon camarade Robert Milon, hein, que je connaissais et que je faisais du vélo avec lui depuis l'âge de 12 ans. Et on faisait l'internat ensemble. Et alors on a dit, tiens, on va aller voir. Alors on a écrit, et puis on nous a convoqués. Je suis arrivé donc en septembre, début septembre, là-bas, à Saint-Alban.
Mais disons, avant ça, vous vouliez vraiment devenir, je ne sais pas, psychiatre? Pourquoi vous êtes intéressé à ce que, moi, est-ce qu'on peut dire la folie, la psychiatrie?
Dans cette année 47, j'avais été amené avec Milon, justement, et un autre ami, enfin, qui était un des préférés d'Adjuria Guerra, donc, docteur Angelergue, qui est devenu important, hein, qui était vraiment le meilleur, on peut dire, suivant d'Adjuria Guerra, a participé à écouter en tant qu'auditeur, bien sûr, des conférences qui étaient faites à la rue d'Ulm. C'est là que j'ai rencontré Adjuria Guerra. Et puis, je me souviens, au mois de mai encore, c'est pas une révélation, mais une rencontre d'une capitale. C'est quand Lacan est venu faire une conférence, comme ça. Alors ça m'a réveillé, là, vraiment. Ça m'a dit, tiens, quelqu'un d'extraordinaire. Quoi, très bien. C'était quelqu'un qui se distinguait, non pas des autres qui avaient parlé, mais de l'ensemble, disons, de la culture de cette époque. Et là, je me suis dit, tiens, il faut absolument que je lise tout ce qu'il a écrit, ce type-là, puis que le rencontrer. Et alors, c'est conjointement qu'il y a eu cette demande d'Adjuria Guerra, hein, quelques mois après, pour Saint-Alban. Mais ce n'était pas une direction comme ça, disons, par décision. J'étais plutôt orienté dans différents courants, et en particulier, je voulais faire je faisais ma médecine, bien sûr, hein, mais j'avais fait un certificat de physiologie générale à la Sorbonne. Un des profs m'avait demandé, justement, qu'après la médecine, qui n'était qu'une formation scientifique, disons minimale, de venir travailler dans son laboratoire de physiologie. Ça m'aurait plu. Et comme il m'avait invité, je lui ai dit pourquoi pas. Mais entre autres, j'avais essayé de faire un certificat de chimie physique. Mais ça me dépassait, ça, au point de vue mathématique, j'étais pas assez dans... C'est vraiment très spécialisé. Mais n'empêche que je voulais continuer comme ça. Et j'avais fait une démarche alors, une démarche qui m'a beaucoup marqué, au début juillet, avant même, ou alors peut-être en même temps qu'il y avait la demande d'Ajuria, j'avais été à l'Institut Pasteur voir un chercheur en chimie physique, justement. Il s'appelle, je me souviens encore, Dervitchian. Et alors, il était très sympathique. Je lui ai expliqué que, tout en faisant la médecine, je m'intéressais à la chimie physique, surtout au problème des... Comment on peut appeler ça ? Des membranes.
Des membranes.
Des couches minces. Ce qu'on a appelé plus tard, ce qui a été repris par une amie brésilienne qui est écrivain. Le problème des bulles de savon. Qu'est-ce qu'une bulle de savon ? Alors, il se trouve que c'est le problème fondamental ce qui est apparu un peu plus tard, de la psychopharmacologie, de la neurobiologie, et le problème des membranes. Tout ce qui se passe au point de vue des médiateurs met en question les membranes. Donc, c'est ça. Alors, il m'avait dit, moi, je suis tout à fait d'accord à ce que vous veniez. Mais là, je dis, je viens vous voir pour savoir si je dois aller plutôt faire de la psychiatrie plutôt que de venir là. Alors, ça l'avait surpris, mais amusé en même temps. Mais il m'a dit, vous savez, pour faire venir à l'Institut Pasteur, surtout à cette époque, c'était d'une misère matérielle. Il dit, sur une centaine d'étudiants qui viennent, au bout de 6 mois, il n'y en a qu'un qui reste. Il faut vraiment en vouloir, et puis ne rien espérer. Mais autrement, je suis tout à fait d'accord.
Mais c'est pas comme ça dans tous les domaines. Ne rien espérer.
Surtout dans les questions matérielles, là, d'Institut Pasteur. Et alors, il dit, voilà, si vous ne me faites pas signe, c'est que vous aurez choisi la psychiatrie. Alors, je ne lui ai jamais fait signe. Et quelques mois après, j'étais à Saint-Alban, où je retrouvais alors Tosquelles, que j'avais rencontré dans ses conférences, dont j'avais écouté les conférences au mois de février.
Et Tosquelles aussi, c'est un personnage extraordinaire.
Alors, c'est un personnage extraordinaire. Alors, je ne m'attendais pas d'ailleurs que ce soit lui, je n'avais pas fait le rapprochement. Et en arrivant, le 3 septembre, je me souviens, en plein été, j'ai rencontré Tescaillès comme ça, dans un grenier. Il habitait dans un grenier de Saint-Alban. Il était en pleine discussion, comme par hasard, avec un personnage qui s'était réfugié pendant la guerre en tant que juif ukrainien et qui travaillait à l'Institut Pasteur. C'était Barda. Et pour me présenter à Tescaillès, j'avais dans la poche le compte rendu écrit que j'avais pris de la conférence de Lacan. Alors c'était vraiment une carte de visite
pour Tescaillès.
Pour Tescaillès, oui. Disons ça, une entrée directe dans le champ qui l'intéressait. Oui. Donc il y avait le côté, disons, de la recherche biologique, neurologique et autres, plus alors toute l'ouverture, disons, sur les réflexions psychanalytiques et bien plus larges de Lacan. Alors, Tescaillès faisait la synthèse au fond de tout ça, il se présentait là, et d'emblée, il y a eu...
Une synthèse à la fois aussi très personnelle.
Très personnelle. Et d'emblée, ça a marché tout de suite, quoi.
Oui.
Je ne me suis même plus posé de questions.
Vous ne vous êtes plus posé de questions.
Au point de vue de rester ou pas. Je suis resté là.
Puis il y a aussi la rencontre avec les fous.
Ben oui, les fous, c'est difficile. Maintenant, on emploie le mot fou depuis 20 à 30 ans. C'est compliqué de dire fou, parce qu'on est tous fous. Pas plus. Alors, les malades mentaux, c'est compliqué aussi. On appelait ça des malades. Des malades. Ici, on appelle ça des pensionnaires, mais c'est guère mieux. On ne sait pas quoi dire. Parce que les fous, ça ne veut plus rien dire. C'est vrai que dès le lendemain, je me suis trouvé à monter dans un camion non bâché. Camion,
découvert.
Découvert. Il y avait un tas de fous dedans, dont moi, au fond, pour aller faire une promenade à une trentaine de kilomètres de Saint-Alban, au Malzieux, ça s'appelle. Alors c'est là que j'ai commencé à parler. C'est la première fois, en fin de compte, que j'étais en contact avec ces gens-là, mais c'était tout naturel, en fin de compte. Ça m'a jamais surpris. C'est pas ça qui est surprenant. C'est pas d'être en contact avec des gens qui sont, en fin de compte, un peu bizarres, mais enfin...
C'est rare quand même.
C'est une convivialité.
Oui, mais c'est rare, c'est une convivialité rare, parce que la plupart des gens éprouvent un sérieux malaise devant ceux qu'on appelle les fous.
Moi, je me sentais tout à fait à l'aise. Tout à fait à l'aise. La surprise dont je parlais tout à l'heure, c'est de découvrir comme ça, par au tournant, on peut dire, d'une conversation, quelque chose d'un autre niveau, on peut dire d'une transcendance. Par exemple, quelques années plus tard, j'ai lu un livre que j'aime bien, enfin, en 49, je crois, un livre en espagnol, de López Ibor, mon prof de psychiatrie de Madrid, que n'aime pas beaucoup Tescaillès, pour des raisons politiques, ça se comprend. Ce qui n'empêche que López Ibor, c'est un type qui a été pour moi d'une importance considérable dans la pratique. Parce que j'avais le livre de López Ibor, les problèmes des maladies mentales, quoi, de psychiatrie, d'une très grande ouverture culturelle, mais avec en même temps une connaissance clinique. Et alors, dans l'introduction qu'il fait de ce livre, il dit que si, je ne me souviens plus exactement ce qu'il dit, mais si quelqu'un qui s'engage comme ça dans la psychiatrie n'éprouve pas devant un schizophrène, devant un malade, ça, une sorte de, non pas d'admiration, mais de... de stupéfaction, hein. Un petit peu que comme devant l'Himalaya, quoi. Mais vaut mieux qu'il fasse autre chose. C'est pas la peine d'insister. C'est, ou c'est ça ou c'est pas ça. Il faut qu'il y ait ce « ah » devant la transcendance. C'est-à-dire d'une autre logique.
Oui, parce que justement, le schizophrène, c'est quelqu'un qui ne vous laisse pas en paix. C'est quelqu'un qui vous questionne.
Ça peut être aussi quelqu'un qui vous laisse complètement... qui vous parle même pas, enfin, qui est dans une telle passivité qu'il s'en fout complètement de vous. Hein.
Non, mais dans la présence, à vous, en tout cas, vous questionne.
Ah, bien sûr.
Doit vous questionner.
Mais vous questionne sur ce que vous êtes vous-même. Hein. Parce que, on dit schizophrène, psychotique, hystérique, mais on est tous ça à la fois. Hein. Et c'est justement l'apport inestimable de Tosquelles. C'est de faire sentir ça, qu'on est en potentialité, tout ça.
Tout ça, oui.
Il faut qu'il y ait un dynamisme, il faut qu'il y ait une dialectique, disons, entre tous les facteurs qui composent une personnalité. Mais si ça s'arrête à un moment donné, c'est là qu'on devient fou. S'il y a une stase, comme on dit, hein, si ça se bloque, à ce moment-là, il y a un des facteurs qui va rester là, en panne, et c'est celui-là qui se manifeste. Et qu'on retrouve ça, alors, bien plus, un peu plus tard, mais déjà à Saint-Alban, avec Tosquelles, dans l'initiation à toute la problématique d'une psychiatrie mal connue en France encore, de Zondi, de Léopold Zondi. C'est moi qui montre bien, disons, en suivant, disons, la direction de Freud, hein, qui disait la même chose, qu'il y a des potentialités, là, qui peuvent se manifester quand il y a une cassure, hein, quand il y a une rupture dans l'existence. À ce moment-là, il y a un des aspects de la personnalité qui était là, disons, prêt à se manifester, qui apparaît. C'est ce qui prouve, en fin de compte, qu'il y a une transcendance vis-à-vis de l'autre, d'autrui, du fou, si vous voulez. Il y a une transcendance. Mais en même temps, il y a une tout à fait une communauté d'existence, quoi. Hein? Il y a donc, il faut bien faire l'analyse, la distinction entre cette transcendance-là d'une logique tout autre, mais en même temps une appartenance, disons, comme dit Lacan, c'est un par-l'être, hein? Un être parlant, plutôt un par-l'être. Comme soi-même, même s'il dit rien, mais ça fonctionne pareil.
Mais justement, il a un problème avec le dire, précisément.
Surtout chez le schizophrène, alors. Il y a une sorte de lésion, si on peut parler de lésion, de ce que j'appelle la fabrique. C'est pour prendre une expression de Francis Ponge, ça, la fabrique du pré. Ce que j'appelle la fabrique du dire. Le dire, qu'il faut distinguer du dit, de la parole, du langage, de la langue. Mais le dire, c'est ce qui est à la base de tout ça. S'il n'y avait pas de dire, il n'y aurait pas de dit. Or, le dire, c'est quelque chose de continuellement en formation, en fabrique. Alors, il semble que dans le processus schizophrénique, il y a un défaut, là. Quelque chose qui marche mal dans l'usine, là. Hein, ça se fabrique pas. Il n'y a que des bouts, ou c'est des choses complètement à côté, quoi. Donc il y a un trouble profond dans l'émergence, et même avant l'émergence, dans la fabrique même, de tout ce qui va permettre qu'il y ait du langage. Donc dans le dire. Alors tout notre travail, c'est justement de saisir à ce niveau-là le défaut. On appelle le défaut schizophrénique, hein, classiquement, qui est un défaut, là. Ça correspond un petit peu, comme ça, à ce que Lacan a amené bien plus tard, sous le concept de, souvent mal compris, de la langue, en un seul mot. Pour dire, c'est pas la langue, c'est pas le langage, c'est pas la parole. C'est ce qui est bien avant, bien, bien avant, structurellement. C'est ce qui est en sous-jacence, quoi. C'est la langue. Ça se rapproche de la fabrique du dire, ça. Et dans, il y a une lésion à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui a mal gazé ou qui s'est détruit. Alors, tout le travail, c'est d'essayer de ressaisir à ce niveau-là quelque chose pour pouvoir communiquer simplement avec l'autre.
Alors, est-ce que c'est la première phrase qu'un fou, qu'une folle, entre guillemets, vous aurait dit quand vous êtes arrivé à Saint-Alban? Tiens, voilà le ciel.
Faut dire.
À cause de, dites-vous, à cause de mes yeux bleus comme le ciel.
Alors, oui, c'est d'une part, il faisait beau, hein, donc il devait y avoir un ciel bleu, hein, ça devait induire quelque chose. Or, cette malade-là, c'était une démente. Une démente sénile, enfin une démente, qui on peut avoir de très bons contacts avec les déments, hein, contrairement à ce qu'on croit. Donc en même temps, sans aucune inhibition de sa part. Hein. Et alors, c'est spontanément qu'elle dit ça, direct, comme ça, et qu'elle me voit, elle dit, là le ciel. Alors, ben, j'ai pensé que c'était à cause des yeux bleus, hein, ou des cheveux un peu bizarres.
Vous aviez les cheveux coupés en brosse.
C'était un accident d'un coiffeur qui m'avait coupé trop les cheveux, hein, qui était plutôt blond. Hein. Et alors, moi qui suis grand, ça a dû impressionner, comme ça, un grand jeune homme qui arrive là. Alors, pour elle, peut-être pris dans tout un système délirant, hein, me dit, voilà le ciel. Mais ça, c'est des réflexions, peut-être disons, parce que sur le plan démentiel, de coup de foudre. D'un coup de foudre.
C'est beau.
Plus tard, dans une malade hystérique, je ne sais pas quoi, m'avait dit, voyez-vous avec vos yeux bleu gamelle. J'aime beaucoup aimer ça. C'était au moment, en 1950-51, où on fabriquait en série des casseroles émaillées bleu clair. Allez-vous avec des yeux bleu gamelle. Ça m'avait rappelé ce que m'avait dit la première, là. Voilà, à peu près.
Enfin, comme premier contact, c'est quand même intéressant.
Ah, c'est sympathique.
Ça signe.
C'est un accueil.
Ouais. Il faut sans cesse rentrer dans le paysage de quelqu'un.
Ben oui, ce serait pas mal. Oui.
Ce serait pas mal, non?
Oui, ce serait pas mal. Mais ça dépend dans quelles circonstances. Hein, ça dépend.
Je veux dire, dans plusieurs circonstances de la vie, on est obligé de faire ça, d'une certaine façon.
Mais souvent, on peut pas. Hein, parce que souvent, dans la famille, justement, c'est l'endroit le plus difficile, quelquefois, pour faire ça, pour rentrer dans le paysage de l'autre. Hein. Parce que c'est souvent un paysage tout fait, la famille. Bien que il ne s'agit pas de dire du mal de la famille, comme ça a été à un moment donné, au moment où justement, on ne tenait pas compte de la double aliénation. On accusait la famille de la schizophrénie. Alors ça rendait d'une façon épouvantable les gens coupables. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais gentil pourtant. Quand t'étais petit, moi j'allais te chercher à l'école et puis... Et puis je te lavais les pieds, puis voilà. Puis quand t'avais voulu un gâteau, je te l'achetais, puis je t'ai bien suivi. Puis quand t'étais malade, je suis resté des nuits à veiller. Alors qu'est-ce qu'on me reproche maintenant? Elle dit, c'est de votre faute si elle est schizophrène. Non, mais c'est même pas une caricature.
Oui, c'est vrai.
C'était terrible à un moment donné. Alors, il ne faut pas accuser la famille.
On est aussi un bout du paysage, de toute façon. Si la famille est un paysage,
exactement.
Nous en sommes.
La famille fait partie de la société. Si on veut passer à un autre registre, c'est les structures de l'État. Mais l'État lui-même, il est pris dans tout un système compliqué. Mais enfin, faut poser les problèmes. La famille n'est qu'un symptôme. Hein, c'est la cellule de reproduction, comme disait. Hein, de production et de reproduction, avec un certain style, suivant les époques. Ah, bon, c'est tout, quoi. Hein. Ils se développent là-dedans ce qu'on veut, mais en fin de compte, les gens se regroupent dans des systèmes par affinité qui ne sont pas forcément des gens de la famille. On sait bien tout ce qu'il y a comme conflit dans les familles. Hein, il suffit de voir une famille qui s'entend bien. Hein. Bien. Pas d'histoire. Il suffit qu'il y en ait un qui meurt là-dedans, le grand-père, le machin, qui laisse un héritage. Mais c'est effrayant. Hein. ils se revoient plus. Moi, j'ai des gens qui, ils n'ont pas vu leur fils depuis 25 ans. Bon, pour rien. Pour, parce que je sais pas quoi. J'ai une autre bonne femme, là, elle est morte. Parce qu'elle avait prêté de l'argent à son fils. Elle a fait une mélancolie qui n'était pas déclenchée par ça. Mais il y avait l'idée fixe. Oui, mon fils, il ne m'a pas rendu mon argent. Oui, mon fils, il n'a pas rendu mon argent. Il ne lui a jamais rendu. Parce qu'il avait une bonne femme qui lui disait « On garde l'argent, hein. » Donc, il ne venait pas voir la mère. Ça a duré des années. Et elle pensait qu'à ça. Puis elle est morte. Elle aurait pu être guérie si le fils avait pu venir. Je suis sûr qu'elle aurait été guérie. Mais ça, y a des éléments comme ça, de multiples, qui peuvent jouer. Alors c'est une psychothérapie large, ça. On peut agir sur la famille pour traiter ça. Mais c'est pas pour ça qu'on fait de la thérapie familiale, on en fait tout le temps.
À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Jean Houry s'entretenait avec Cécile Amsi. Réalisation Marie-André Armineau.
Le premier des 5 entretiens à voix nue avec Jean Houry a été diffusé le 24 septembre 1990 sur France Culture. À suivre.